no one really knows all the sacrifices that you make.
Just to be good.
Alors, c'est la bande-annonce de Naomi Osaka, qui est une série documentaire sur le tennis.
Oui, exactement.
Et tu as une invitée spéciale avec
toi. Oui, j'ai amené François, parce que, ben, je me suis dit, on
François
pourrait
avoir... François Bessette, qui est là tout le temps, là, depuis...
Exactement, dans le sport.
Tout une invitée spéciale, t'as cherché longtemps.
Je sais, j'ai cherché fort, vraiment. Non, mais c'est parce qu'on va parler de sport, puis c'est une série documentaire sur Netflix, sur Naomi Osaka, qui a 23 ans, championne de 4 grands chelems au tennis. Mm-hmm. La première athlète asiatique à avoir atteint le premier rang mondial. Là, est rendu deuxième mondial tennis féminin. Puis, c'est une série sur la pression qu'on met sur les athlètes puis la quête identitaire qui vient avec. Fait que là, je me suis dit, François, ça serait le fun aussi d'avoir son opinion là-dessus. Puis, je ne sais pas si toi, ça te surprend déjà à la base, parce que Naomi Osaka devait être ici à Montréal, à l'Omnium Banque Nationale. Finalement, elle s'est retirée, comme elle s'est retirée d'ailleurs des internationaux de France, de Wimbledon. Et je ne sais pas si ça t'a surpris qu'elle fasse une série documentaire, parce qu'elle s'était retirée parce qu'elle ne voulait pas faire les conférences de presse.
Non, ça, c'est assez surprenant, merci, parce qu'au cours des dernières années, elle a refusé de s'adresser aux journalistes, entre autres, après ses matchs. Sauf que elle n'est pas à Montréal... Puis on ne sait pas si ça va être au US Open, mais elle a subi toute une déception parce que elle, c'était la grande vedette des Jeux de Tokyo. Ouais. Et elle a été éliminée dès le premier tour.
Ouais.
Mais le cas d'Osaka n'est pas toute seule dans cette histoire-là. Parce que André Agassi a déjà sorti un livre
sur la pression.
Sur la pression, disant que moi, j'ai jamais aimé ça, jouer au tennis.
Oui, puis il disait que c'était son père qui le forçait.
Son père le forçait. Pensez au Sir Williams qui. Elles aussi ont eu des problèmes avec leur père. Mm-hmm. Je me rappelle pas du nom, mais je sais que c'est déjà arrivé aussi que des papas ont été exclus des stades de tennis parce que les filles, c'était une fille, n'étaient pas capables de se concentrer parce qu'elle voyait son père qui mettait tellement de pression dans les gradins.
Ouais.
Elle était voir les organisateurs et elle a dit, ben écoute, moi, je vais participer à ton tournoi, là, mais mon père ne rentre pas dans le stade.
Mais justement, avec le documentaire, on comprend un peu plus pourquoi elle n'est peut-être pas là. Puis pourquoi? Parce que la pression des journalistes, c'est ça lui mettait une pression sur sa santé mentale aussi, de revoir tout le temps les mêmes questions, de semer le doute dans son esprit. Et donc, je n'étais pas surprise. En voyant le documentaire, je voyais à quel point elle avait l'air pas heureuse, en fait. Puis quand on parle des parents, évidemment qu'on va sur son enfance dans le documentaire, on voit que ses parents, quand elle était toute petite, elle jouait 8 heures sur le court de tennis.
Ah oui.
Et c'est
8
pas normal.
Heures. Ben elle et sa sœur, ses parents voulaient faire d'elle une championne de tennis, puis elle le dit à un moment donné, elle dit, moi c'était soit que je devienne championne, où on était pauvre. Hey. Fait que là, t'imagines la pression sur ses épaules.
Sylvain Lefebvre, l'ancien défenseur du Canadien de Montréal, qui est maintenant entraîneur, a été coach dans la région de New York. Et il m'expliquait que certains parents venaient le voir et ils disaient, bon, écoute, moi, cette année, là, j'ai décidé, je ne mets pas de REER, je prends pas de REER, je prends pas de placement. Là. Je mets tout sur mon gars. Mon gars va me faire vivre un jour.
Ben oui, franchement. Alors qu'on sait, surtout dans la Ligue nationale, de hockey, c'est
dans les juniors majeurs du Québec, il y a moins de 2% des joueurs qui percent un jour
dans la Ligue nationale.
Mais en même temps, tu comprends son père est haïtien, sa mère est japonaise, puis tu comprends un peu que lui voulait juste donner le meilleur à sa fille, tu sais, fait qu'il s'est dit OK, ça va passer par le sport. Fait que t'essaies, mais tu le vois dans ses yeux. Mm-hmm. Puis elle le dit dans ma vie depuis 2 ans, c'est go go go, mais son corps, sa voix, on dirait qu'il y a une espèce de résistance. Écoute, il y a une scène super frappante où sa sœur lui donne une toile, tu sais, qu'elle peint elle-même puis tout ça. Puis elle ne sait pas où la mettre. Puis elle dit, je vais la mettre où est mon trophée? Elle enlève son trophée du US Open. Mm-hmm. Elle le met dans la chambre, puis elle met la toile de sa sœur. Que je trouvais frappant, la réalisatrice d'ailleurs, Garrett Bradley, qui use des gros plans pour vraiment sentir sa vulnérabilité. Et ça a été son idée à Osaka de faire ce documentaire-là pour montrer l'envers de la médaille, justement, pour montrer qu'elle s'autocritique facilement. Tout le monde y parle. Elle était très proche de Kobe Bryant, le joueur de basketball qui est décédé dans un accident d'hélicoptère. Après ça, les journalistes n'arrêtent pas d'y en parler, de Kobe Bryant, puis ça la remet toujours. Elle se questionne beaucoup et elle se sent mal quand elle perd pour sa famille. C'est jamais elle. Toute son équipe dit, elle va être contente si elle gagne.
Elle n'a pas de vie.
Mais elle, je l'entends jamais. Exactement.
Elle n'a pas de vie. Tiger Woods a déjà dit, parce que c'est un champion, il dit, moi, dès mon jeune âge, je pratiquais. Et il dit, écoute, il y a une recette miracle. Là. Si quelqu'un fait une activité pendant 10 000 heures, il devient champion. Alors, moi, c'est ce que mon père a fait. J'ai joué au golf pendant 10 000 heures. Je suis devenu champion. Alors, c'est un peu la même chose avec Osaka.
Mais après ça, les problèmes ressortent, les problèmes psychologiques. Tiger, dans les 10 dernières années, 15 dernières années, ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile.
Michael Phelps aussi, ça a été difficile sur le plan. The Weight of Gold, c'est un documentaire sur Michael Phelps aussi.
Biles, aux Olympiques cette année, qui est en pleine compétition, a dit, moi, j'arrête,
je suis plus capable.
Alors qu'elle était la favorite.
Oui, et ça, c'est un problème. Et on en parle ce matin parce que ce documentaire-là est très intéressant parce que ça va peut-être soulever quelques questions à certains parents. Tu vas dans les arénas, tu vas sur les terrains de soccer, les terrains de baseball, peu importe les activités, puis pas juste au sport, là.
Dans tout.
Comment j'ai entendu souvent un petit gars ou une petite fille qui pratiquait le piano, puis en revenant de l'école, ben tu vas passer 2 heures au piano, ma petite fille, parce que tu vas apprendre ton morceau ou ton mon petit gars. Ouais. C'est la même chose. Moi, je pense qu'il faut... Il y a des grands champions dans le sport, dans la musique, tout ça. Il faut que ça vienne de eux. Un coup qu'ils ont pris leur décision, les parents sont là pour les encadrer.
Oui, c'est ça, mais d'imposer une certaine discipline, puis de dire, moi, je disais toujours à mon fils, tu feras ce que tu veux, mais quand tu commences quelque chose, tu le finis.
Fais-le comme il faut.
Fais-le comme il faut. Ouais. Tu sais, je veux dire, si
pour cette saison-ci, mettons, puis au pire, on te réinscrira pas après, exactement. Si ça te tente pas.
Mais si tu t'engages dans quelque chose, va jusqu'au bout, fais-le.
Oui.
Puis après ça,
tu pourras juger.
Parce que y a rien. Moi, ce que j'aimais pas, c'est d'abandonner en cours de route puis dire, c'est trop difficile.
Non,
tu t'es engagé, tu voulais le faire, fais-le.
Mais à un moment donné, il faut que tu aies la sensibilité parentale pour le voir dans les yeux de ta fille ou ton gars. Et dans l'épisode 3, je vous le conseille vraiment, ce documentaire-là, en terminant, l'épisode 3 est le plus intéressant, à mon sens, qui parle d'identité et de prise de parole. Parce que elle qui est toujours en retrait, qui est toujours dans l'image, qui veut jamais dire rien parce qu'elle a peur de choquer, et finalement, elle décide de prendre parole. Entre autres, bon, pour les Jeux olympiques, elle a été avec le Japon. Son père est haïtien. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit « Ah, tu délaisses ton côté noir. Tu t'en vas avec le Japon. » Fait qu'elle, elle se sentait... Elle était dans une quête identitaire. Puis, à un moment donné, elle dit « Je vais parler. » Puis, elle a pris... Elle a abordé elle a donné son appui, en fait, au mouvement Black Lives Matter.
Oui.
Et ça a été la seule dans le tennis à le faire, à faire « Non, moi, j'irai pas jouer ou je vais annuler ça. » Et à partir de ce moment-là, on dirait qu'elle faisait partie de prendre la parole. On dirait qu'elle faisait partie d'une unité. Puis ça lui a donné un pouvoir. Puis après ça, elle a pris la parole pour ne plus faire les conférences de presse. Il y a quelque chose dans la prise de parole qui libère. Et c'est super bon comme documentaire, sincèrement.
Alors, ça s'appelle...
Naomi Osaka, tout simplement, sur Netflix. Allez voir ça. Puis c'est très, très bien réalisé. La musique, tu le sens que dans le troisième épisode, c'est comme la libération un peu versus les deux autres épisodes précédents qui sont assez oppressants. Très intéressant.
Voilà. Alors, merci beaucoup. De ce panel d'experts, n'est-ce pas? On s'en va avec Guylaine à la circulation sur Métropolitaine.